France Inter. Le 18-20, Fabienne Saint-Esse.
Parfois, quand ça veut pas, ça veut pas, hein, quel que soit le bout par lequel on essaye de prendre les choses, qu'on soit pour ou qu'on soit contre cette réforme des retraites, peu importe, mais la voilà mise sur la table depuis 18 mois, et résultat, quand les détails sont là, elle met une partie de la France et de la région parisienne surtout sans dessus dessous depuis 10 jours. Et voilà aujourd'hui que celui qui portait la loi est contraint à la démission pour avoir oublié de déclarer 13 mandats, dont 2 rémunérés. Il part, dit-il, pour ne pas nuire à la réforme. Il part à la veille d'une nouvelle journée de manifestation, avec cette fois la CFDT dans les cortèges. Tout cela ne pouvait pas plus mal tomber. En plus de la bataille de retraite, c'est la bataille de l'opinion qui est lancée, celle des syndicats revenus au premier plan, celle du gouvernement qui entend tenir plus que jamais. Nous sommes camp contre camp, chacun se rejetant la responsabilité du blocage et des réveillons gâchés au train où vont les choses. Pardon pour ce jeu de mots involontaire. On est parti.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Vous ne savez donc pas d'appel ce soir comme depuis un certain nombre de jours, mais nous pouvons lire vos appels avec vos noms et les lire in extenso, ceux qui arrivent au 01 45 24 7000 et aussi ceux de franceinter.fr. On va commencer avec Muriel. Muriel et Richard d'ailleurs, tiens, l'un après l'autre. Sachant que la réforme des retraites est un sujet hautement sensible, je ne comprends pas que le gouvernement ne se soit pas assuré que le haut commissaire était réellement parfait sur le plan de la légalité. Est-ce de l'amateurisme ou est-ce du cynisme? Richard nous dit, y a-t-il pas un conflit d'intérêts dans le contenu du texte, puisque la réforme de base est rédigée sur la base du rapport de M. Delevoye et qu'il a démissionné pour cause de conflit d'intérêts. J'en ajoute une troisième, comme ça ce sera fait avec le hashtag Telson, qui dit « Maintenant que Jean-Paul Delevoye a démissionné, comment cette réforme peut-elle être poursuivie en l'état? Cette démission est bien la preuve du cafillage du gouvernement. Tout doit être remis sur la table. » Voilà ce qu'on dit autour de cette démission pour répondre à vos questions ce soir jusqu'à 20h et discuter ensemble. Roland Quayrol est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur de recherche associé au CEVI Post. Bonsoir Jean-François Amadieu, bonsoir. Vous êtes sociologue et spécialiste des mouvements sociaux. Yael Gauze est là aussi. Bonsoir,
bonsoir
Yael,
Fabienne.
Chef du service politique de France Inter. L'homme qui incarne et qui était aussi reconnu par tous, c'est vrai que Jean-François Amadieu, ça fait un peu désordre ce qui s'est passé ces derniers jours et aujourd'hui avec une démission, non ou pas?
Oui, ce qui est surtout le plus ennuyeux pour l'exécutif, c'est que on met toujours plusieurs jours avant d'en arriver à la conclusion que la démission est la seule issue. Mmh. C'est ça qui est le plus surprenant, parce que encore ce matin, on continue à soutenir, les ministres se succèdent pour expliquer qu'il n'y a aucun problème et qu'ils renouvellent leur confiance. C'est quand même dévastateur, hein, parce que évidemment, tout le monde a compris que non seulement il y avait conflit d'intérêts, que ça tombe on ne peut plus mal sur un sujet comme les retraites, bien sûr.
Roland Quayrol, quand les gens disent, alors l'argument, je ne sais pas comment il tient, mais quand ils disent, ben, puisque Delevoye s'en va, il faut qu'il parte avec sa réforme sous le bras, ça c'est un argument, c'est une chose, mais y a-t-il honnêtement quelqu'un qui connaisse aussi bien que lui? Parce qu'ensuite, qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, il y a aussi des techniques, des choses qui sont très techniques. Y a-t-il quelqu'un qui peut remplacer au pied levé un Jean-Paul Delevoye?
Ah ben, je sais pas s'il y a, mais il faut. Il y aura quelqu'un, forcément, très vite. Et d'ailleurs, ça a été annoncé par l'Élysée. Il y aura pas une chaise vide. Donc, il faut trouver ou quelqu'un à l'intérieur. Alors, j'ai entendu parler d'Agnès Buzyn, puisqu'elle était la supérieure hiérarchique au gouvernement de Jean-Paul Delevoye, ou M. Djebari, d'autres. Ou bien, on va chercher à l'extérieur, mais c'est compliqué parce que du coup il va falloir faire attention avec la haute autorité, les déclarations de transparence, on risque de pas avoir le temps, mais il y aura en effet quelqu'un et la réforme va continuer. C'est pas parce que Jean-Paul Delevoye en a été l'organisateur et qui s'est fait admirer par ses capacités de négociation par tout le monde, personne n'est indispensable, le cimetière est rempli de gens indispensables,
oui.
Le cimetière politique aussi.
Alors certes oui, alors l'élément de langage par ailleurs de il doit partir avec sa réforme sur le bras, on pouvait imaginer évidemment qu'on allait l'entendre. Moi, je suis quand même étonné, un peu à l'image de Jean-François Amadieu, Yael Gauze. Comment est-ce qu'on peut faire une bourde pareille? Parce qu'au bout du compte, quand même, c'est à ça que ça ressemble.
C'est toute la question et c'est même la sidération dans les ministères. Vous avez des conseillers qui sont dans l'ombre, hein, qui sont dans les cabinets, à qui on a demandé aussi de remplir bien sûr des déclarations de patrimoine auprès de la haute autorité, et à qui la haute autorité regardait même quand il y avait doublon de livret A sur des vues livret A, vous savez, que vous avez ouvert il y a 10-15 ans et que vous avez oublié de fermer, on allait leur chercher des poux dans la tête pour de simples livret A. Là, il s'agit du monsieur retraite, d'un haut commissaire qui devient ministre, qui prend le rang de ministre ensuite, et tout ça n'est pas perçu, n'est pas vu, n'est pas détecté. Le secrétariat général du gouvernement n'a pas vu, n'a pas alerté. Est-ce que c'est parce parce qu'il y a des politiques qui ont un poids tel dans l'opinion et dans l'histoire, une aura telle qu'on n'ose pas leur chercher des pots dans la tête, ça pose quand même question, parce que ces 13 conflits potentiels d'intérêts, ces 13 mandats qu'il avait, auraient dû tout de même être perçus beaucoup plus tôt avec plus de vigilance.
Est-ce que c'est aussi parce qu'il a été nommé ministre un peu rapidement? Vous vous souvenez que
c'était un haut-commissaire aussi. Un haut-commissaire aussi doit déclarer.
Il avait déclaré.
Vous vouliez ajouter quelque chose en
commissaire, il avait fait une déclaration. Moi, je trouve en effet que et le secrétaire général du gouvernement et le président de la haute autorité de la transparence, qui se trouvait un de mes amis, mais là, ça va pas. Si j'étais au pouvoir, ce qu'à Dieu ne plaise, je leur taperais sur les doigts. D'autant qu'il y a un problème juridique encore plus compliqué que ce qu'on nous a dit toute la journée. C'est que haut commissaire, c'est quelque chose, c'est un, juridiquement très mal défini, ça n'est pas défini dans les textes. Ça peut être, si on dit qu'ils assistent au Conseil des ministres, être considéré comme membre du gouvernement. On nous a dit que ça n'était pas le cas pour M. Delvoye et que donc, peu importe qu'il avait quelques erreurs, ça n'était qu'une déclaration de haut commissaire. Mais si il n'est pas membre du gouvernement, il est fonctionnaire. Et à ce moment-là, c'est carrément interdit d'avoir des rémunérations arrivant du secteur privé. Donc, il est juridiquement dans de plus mauvais draps encore qu'on le croit. Nul n'est censé ignorer la loi, encore moins la Constitution. Voilà. Moi, je crois à la bonne volonté, à la bonne foi de M. Delvoye. Je pense qu'il n'a pas bien fait attention, qu'il n'a pas été conseillé et qu'en effet, son attention n'a pas été attirée par le secrétaire général du gouvernement ou le président de la haute autorité. Reste que, même sans avertissement, juridiquement, il est en faute.
Jean-François Madieu,
oui,
je vous vois soupirer.
Oui, sur un seul point, c'est que c'est la question de cet institut de formation assurance et surtout le fait que tout ça était lié à l'IGS et le groupe IGS assurait le financement. Enfin bon, si on résume la situation, et l'IGS qui a des liens très importants avec le milieu de l'assurance, qui avait renfloué d'ailleurs. Enfin bon, bref, de ce côté-là, c'est quand même un peu embarrassant.
Donc
parce
c'est un
que
vrai
là,
conflit
il y a manifestement,
d'intérêt, pour le coup,
non, mais il y a manifestement un circuit qui a permis de déversement et donc le conflit d'intérêts paraît quand même là assez clair pour tout le monde, donc c'est quand même un point important.
Jusqu'à quel point, Yaël, cela affaiblit le gouvernement qui essaye de faire passer cette réforme? Jusqu'à quel point c'est une épine de plus dans leur pied?
Parce que c'était le personnage récurrent de la grande négociation retraite, c'est lui qui avait sorti le rapport dans lequel l'âge pivot à 64 ans figurait juillet dernier, souvenez-vous, c'est là la grande conclusion de ces 18 mois de négociation avec les partenaires sociaux. Donc c'est sur cette bible-là, quelque part, des retraites qu'Emmanuel Macron a construit ensuite la suite de la réforme. Et il est débranché maintenant. Pourquoi ? Évidemment, parce que demain, c'est le nouveau mur que doit affronter le gouvernement, tous les syndicats, CFDT compris, dans la rue, pas pour les mêmes raisons, mais dans la rue ensemble malgré tout. Et que mercredi, vous avez la haute autorité qui va effectivement éplucher maintenant le cas de Levoye dans le détail et éventuellement saisir le parquet. C'est-à-dire qu'on le débranche bien avant que les choses se judiciarise et bien avant que le mouvement social ne prenne demain.
Et qu'on voit des panneaux partout demain, disons, de Levoye démission.
Oui, c'est,
exactement, notamment avec les masques. On a cette question de Jean-Michel qui vient d'arriver, qui dit, mais à quoi elle sert cette haute autorité si elle ne vérifie pas les informations déclarées par les ministres?
Attention quand même, parce qu'on a quand même, c'est un progrès démocratique, ça fait 6 ans qu'elle existe, et dans 99% des cas, nous dit Jean-Louis Nadal, le procureur en charge qui va maintenant passer le flambeau à un successeur, ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, évidemment, plus on détecte, plus on passe le tamis et plus on voit des choses. C'est un peu statistique, j'allais dire. Après, ça tombe très très mal au très mauvais moment, oui.
Allez, cette question de Frédéric qui nous dit « La grève va devenir impopulaire si elle se poursuit pendant les fêtes de Noël, mais c'est la faute du gouvernement qui a lancé sa réforme avant Noël. Il fallait la lancer après. » Je voudrais en ajouter une autre qui est celle de Michel qui dit « Je soutiens les grévistes de la SNCF. Le gouvernement cherche à opposer les usagers et les grévistes et pourtant ce sont les mêmes, esclaves d'une philosophie prédatrice des droits humains, etc. Eh bien, pour Noël, je ne rejoindrai pas ma famille. C'est tant pis, mais aussi c'est tant mieux. » Où on en est là?
Noël, c'est une déclaration.
Noël est,
d'amour,
parfois une épreuve. Noël est parfois une épreuve.
Attention à la famille. Ouais.
Où on en est en termes d'opinion? Parce qu'en lisant les derniers chiffres, notamment ceux du JDD hier, j'ai l'impression qu'on est toujours dans une balance qu'au fond, les lignes n'ont pas beaucoup bougé, en fait,
non,
Jean-François.
Vous savez qu'il faut raisonner en longitudinal, et institut de sondage par institut de sondage, puisque ce n'est pas les mêmes niveaux. C'est l'IFOP pour le JDD, c'est 50... plutôt une croissance, oui, mais à la hausse sur la popularité du mouvement. Ouais. D'accord. Sur les trois derniers sondages. Je pense que quand on aura du haut Doxa, on sera sûrement dans les mêmes eaux, donc à des chiffres plus élevés, des valeurs plus élevées. Donc ça dépend des instituts. À l'heure actuelle, on ne peut pas conclure une baisse de la popularité.
Mais voilà, on est autour de 53,4 dans ces eaux-là.
C'est entre 54 et 60, ce sera 65 ou 68 selon les instituts.
Voilà. Et est-ce que ce n'est pas ça, au fond, la vraie différence avec des conflits précédents où, à ce stade, donc au bout d'une bonne dizaine de jours, l'opinion avait pris parti d'un côté comme de l'autre. Ici, là, l'opinion ne prend pas parti.
Dans le niveau actuel, c'est celui de 95.
Ça montait progressivement.
Et même pour la SNCF l'année dernière, des taux qui étaient restés assez stables jusqu'à la fin du conflit.
Et même si le conflit dure, alors sauf cas exceptionnel où un conflit ne concerne que la RATP et la SNCF, on peut descendre en dessous de 40% de popularité, enfin de soutien. Mais sinon, et là, sur un mouvement qui est plus large, c'est pas uniquement RATP et SNCF, quoi qu'il puisse arriver, vous êtes assuré qu'il y a plus de 50% des Français. Donc la valeur normale attendue, elle est autour, en effet, de 55-60.
Voilà. Yael,
il y a une chose qui me frappe, c'est que là où normalement l'usure devrait le plus se faire sentir, Île-de-France, francilien, parce que c'est là vraiment que les effets de la grève se font sentir le plus, beaucoup moins en région, eh bien le taux reste très élevé. Dans l'IFOP dont on parle, 52% des franciliens et parisiens interrogés disent que le mouvement social est populaire. Enfin, ils ont le soutien de ces gens-là. Et alors que le pari du gouvernement, c'était justement de décrocher l'opinion dans les zones où la grève se faisait sentir et où la CGT devenait l'épouvantail.
Mais vous savez que là, il y a une explication, et malheureusement, dans les résultats qu'on a des instituts de sondage, on ne peut pas avoir ce détail. Il faut raisonner toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire que, évidemment, les retraités, par exemple, qui soutiennent évidemment l'âge pivot et la réforme, vont être moins en région parisienne. Donc on a des actifs, on va avoir donc où sont les CSP moins, les actifs et les jeunes. Et c'est en raisonnant comme ça, on s'aperçoit qu'évidemment, ça va être ceux qui prennent les transports en commun.
Voilà. Et d'ailleurs, donc, dans les chiffres des instituts, on le voit. Voilà. Les chiffres de soutien à la grève sont minoritaires en région parisienne, alors qu'ils restent majoritaires dans l'ensemble de la France.
Pas dans le dernier IFOP, justement. C'est ça qui m'a frappé, moi.
Mais si.
Le
problème, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça doit continuer? Mais il faut quand même bien voir qu'il y a aussi 78% de Français qui pensent aujourd'hui, et ça n'a jamais arrêté d'augmenter, que le gouvernement va finir par imposer sa réforme. Donc on s'installe dans une espèce de climat dans lequel, bon, on pense que ça va se terminer, mais évidemment, ça raisonne plus pour soutenir les braves gars, les braves gens qui luttent pour leur bifteck. Que ça mange pas de pain.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien d'ailleurs dans ce 50-50, tout le monde espère que l'opinion basculera de son côté. Donc, y compris si les fêtes de Noël sont gâchées, ce sera la faute du gouvernement. Si les fêtes sont gâchées, ce sera la faute des syndicats.
Et vous le résumez très bien. Le résultat final, c'est que ça ne change pas grand-chose.
C'est
puisque vous allez avoir des gens qui... Voilà. On fait porter la responsabilité aux uns et aux autres. Et au total, quand vous prenez le déroulé des conflits depuis quelques décennies, vous apercevez que finalement, ça ne va pas changer grand-chose à ce niveau de soutien.
Moi, j'arrive pas à croire vraiment qu'il y aura pas un geste des syndicats très hostiles. Ils ne peuvent pas le faire avant demain soir. On ne fait un geste qu'en position de force. Et si demain, comme on peut s'y attendre, parce que tous les syndicats seront dans la rue et plein d'autres gens aussi, s'il y a 1 million de personnes, c'est plus facile de dire, bon, on va essayer de trouver un autre moyen de terminer ça au moment de Noël.
On termine ça ou est-ce qu'on peut vraiment interrompre?
Interrompre
et repartir?
Oui, on peut repartir après, mais c'est plus compliqué parce que vous savez que ce qui fait l'efficacité d'un mouvement, c'est sa durée. Précisément ce qu'il y avait la stratégie classique, grève reconductible, illimitée, etc. C'est ça qui marche. Si vous commencez à vous interrompre et reprendre plus tard, c'est plus compliqué. Mais là, il y a beaucoup de posture, c'est tout à fait normal dans les jours que nous vivons, que chacun attend, et c'est normal, l'exécutif aussi, tout le monde attend, il gagne du temps. Les choses vont se dénouer entre mercredi et vendredi, vendredi c'est un peu tard, mais les choses peuvent se précipiter, c'est attendu, et chacun pour l'instant est un peu dans le jeu de rôle normal. On espère que du côté du Premier ministre et de l'exécutif, il s'agit bien d'un jeu de rôle et qu'il sera concédé ce que la CFDT demande et l'UNSA dans les transports. Si c'est pas le cas, là, c'est une crise majeure.
Yael Gauz, c'est d'ailleurs ce qu'on disait la dernière fois qu'on s'est vu ici autour de cette table. Il y a un jeu politique qui est en train de se jouer, qui se jouera probablement sur l'âge pivot. Oui. La question est de savoir effectivement à quel moment et dans quelles conditions. Mais c'est terrible à le dire comme ça, parce que ça a l'air d'être un secret de polichinelle. Mais c'est vers là qu'on s'achemine, selon vous?
Le retrait de l'âge pivot? À l'heure où on se parle, non, c'est pas l'ordre du jour.
C'est trop tôt.
C'est beaucoup trop tôt à l'heure où on se parle, puisque c'est C'est là où Emmanuel Macron et Édouard Philippe vont se retrouver dans un...
On va dire une négociation autour de l'âge pivot, en tout cas quelque chose qui permettrait de lever un pied ou l'autre.
Oui, mais jusqu'où ? Parce que tout le pari de Macron-Philippe, c'est de dire, regardez, nous on est des bons gestionnaires, on est sérieux budgétairement, on pense à l'équilibre, on est responsable pour les générations futures, et ça c'est ce qui fait la cote du couple exécutif dans l'électorat de droite, chez les sympathisants LR notamment. Donc... Ils ont perdu sur leur gauche, mais s'ils lâchent trop sur l'âge pivot, ils vont perdre sur leur droite. Et ça, c'est pas possible, parce que le pari, c'est pas là à court terme pour les municipales, où ils considèrent que de toute façon, En Marche ne fera pas de miracle. C'est 2022, où là, il faut siphonner, aspirer la droite.
Oui, cela dit, Emmanuel Macron s'est réservé une porte de sortie en nous expliquant publiquement, il y a quelque temps, qu'il était contre l'âge pivot.
Le 28 août, c'est vrai.
Voilà, donc s'il faut le retirer, et à mon avis, il n'y a pas... d'autres sorties de crise que de retirer l'âge pivot, il pourra toujours dire au fond, moi c'était mon point de vue personnel, c'est Édouard Philippe qui sera le dindon de la farce.
C'était le sens de ma question suivante, est-ce qu'il joue sa tête sur cette réforme Édouard Philippe, selon vous, ou pas?
Pas forcément, je crois qu'il a essayé, de jouer au sein du gouvernement celui qui était le... je viens de la droite et je suis le garant de l'équilibre budgétaire et c'est pour ça que je suis là. Bon, il pourra toujours dire qu'il a cédé parce que quand il y a une réforme, il faut tenir compte d'un mouvement social et que avec le président, ils ont fait le point. Et à mon avis, ça ne le contraint pas du tout à partir. Je suis pas sûr qu'il en ait envie du tout. Et je suis pas sûr que ça n'arrange pas Emmanuel Macron de continuer à l'avoir malgré ça avec lui, peut-être jusqu'à la fin du quinquennat.
Mais j'en reviens à la question de départ. Si celui qui est l'arme de destruction massive de la droite, il a été nommé pour ça en 2017, si lui il perd l'âge pivot, je vois pas quelle est l'utilité politique pour la suite vis-à-vis de la droite s'il lâche sur cette réforme emblématique, sur le côté réformateur et non plus réformisme.
Il reste 2 ans et demi à tenir quand même.
Oui, mais alors il perd tout le sel de ce pourquoi il avait été nommé par Emmanuel Macron.
Cependant, dans la rue, si demain l'âge pivot disparaissait, alors quand je dis demain, ça peut effectivement être un peu plus tard, mais est-ce que pour autant ça fait cesser les blocages? Mais enfin
non, parce que vous savez qu'il y a
pas
une deuxième...
de ce que j'entends de la CGT.
Parce que la deuxième clé, comme vous le savez, c'est que il faut trouver on n'en est pas loin, les quelques concessions discrètes qui vont être faites à la RATP, à la SNCF.
Comme elles ont été faites précédemment par vis-à-vis des policiers, vous voulez dire ?
Exactement. On ne fera pas la même chose, on fera un peu moins, mais enfin bon, ça y ressemblera. C'est atteignable, c'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de monde concerné. Grosso modo, on sait très très bien que ça peut jouer sur ce que vous injectez, par exemple sur les salaires des nouveaux qui rentrent, ça peut jouer sur ces générations 85, on peut le décaler.
Enfin, il y a des marges de manœuvre.
Grosso modo, je vais résumer, vous cédez à la RATP, à la SNCF, sans trop que ça se voit, vous ne faites pas d'une clause du grand-père, tout le monde le verrait, mais vous négociez suffisamment pour que ça passe, l'essentiel étant de décrocher l'UNSA et la CFDT. Voilà. Ce qui n'est pas inatteignable, franchement.
Il y a une marge probablement sur la SNCF, puisque au fond, à partir du 1er janvier prochain, on ne rentre plus en statut cheminot. Donc au fond, puisqu'on est à la barre de 1985, s'il y a 120 000 cheminots concernés, il en reste à peu près une trentaine de milliers.
On est d'accord.
En revanche, la RATP, c'est une autre mayonnaise quand même. On n'est pas dans la même chose. On rentre avec le statut RATP encore aujourd'hui.
Oui, je sais. Et c'est compliqué parce que la RATP, d'abord, c'est beaucoup plus dur. Ouais. De participation sont plus importants, ça bloque, ils sont beaucoup plus déterminés, vous avez raison. Là, c'est plus compliqué. Il y a la marche est plus importante et c'est vrai que c'est compliqué. Alors là, du coup, on peut se retrouver avec le lot de scénarios. Au fond, c'est un scénario, j'allais dire, un peu éducation nationale, finalement. C'est-à-dire, vous dites, les nouveaux entrants, il faut compenser. Et vous négociez les compensations. On connaît ce scénario. Sarkozy avait réussi en 2007 à réformer un petit peu, mais alors c'était moins ambitieux, mais les régimes spéciaux RATP SNCF, avec le même genre de deal, où on renvoie dans les entreprises.
Ça coûtait plus cher que sa réforme.
Oui, au jour d'aujourd'hui, ça a coûté plus cher que la réforme. Mais c'est ce qui se passera. Cette réforme, d'ailleurs, est assez incroyable, parce que le coût est astronomique.
Yael Gauzin.
La question, c'est si on retire l'âge pivot, on est tous focalisés là depuis plusieurs jours maintenant sur l'âge pivot, c'est
parce
la clé.
C'est préalable.
Oui, mais si on retire l'âge pivot, c'est pas du tout la revendication actuelle. CGT, faux
pas du tout.
Donc, même si dans la multilatérale, comme on dit à Matignon de jeudi, l'âge pivot était amené à disparaître, est-ce que ça suffit pour sauver les trains à Noël? En faisant ce qu'il faut pour SNCF RATP, pas sûr.
Du tout. Ah non, ça, c'est les négociations. Ouais. Non.
C'est un autre dossier.
Vincent nous pose cette question. Est-il envisageable de garder les éléments positifs de la réforme, comme nous dit-il le seuil de 1 000 euros minimum, la meilleure prise en compte des carrières hachées, etc., sans passer à la retraite par points? Il ajoute, c'est une deuxième forme de question, un référendum d'initiative partagée est-il imaginable pour trancher la chose? Peut-on avoir, pardon de le résumer comme ça, peut-on avoir le beurre et l'argent du beurre? Est-ce qu'il y aurait eu un moyen au fond pour quelque chose de moins difficile à passer, de revaloriser ces carrières-là, effectivement, sans passer
bien,
par les points?
Entendons-nous bien, il n'y aura pas un accord qui mettra fin au débat. Ça va durer des mois encore. Parce que, y compris sur les choses qui paraissent évidentes à notre auditeur ou auditrice, le minimum contributif, pour les salariés, ça leur fait à peu près rien gagner, puisque l'addition du minimum contributif actuel et du minimum vieillesse fait que c'est 978 euros pour un salarié. C'est pas passé à 1000 qui change grand-chose. Alors ça change pour les agriculteurs, pour les indépendants et libéraux, mais ça change pas pour les salariés. Et c'est un des points qui vont être à l'ordre du jour des prochaines négociations avec les syndicats qui, là-dessus, y compris la CFDT, demandent un effort plus important. Mais encore une fois, on n'en est pas encore au projet de loi, moins encore à son adoption par le Conseil des ministres, moins encore au débat parlementaire. Donc tout ça a encore le temps de changer.
Sur le RIP.
J'allais vous dire, parce qu'il y a encore une question là-dessus, il y en a plein des questions sur le RIP, donc allons-y. Peut-on faire un référendum sur le sujet des retraites?
Oui, à deux conditions. C'est dans notre Constitution, il faut réunir 1/5 de nos parlementaires, puis 1/10 des électeurs inscrits. Donc à peu près, de mémoire, 240 députés sénateurs, puis 4 700 000 électeurs. Et là, vous pouvez vous lancer dans le référendum retraite. Après, il passe aussi, il étudie aussi par les chambres après, par l'Assemblée et le Sénat. Donc de là à ce que ça arrive à un ultime référendum pour Emmanuel Macron, le vrai référendum, dit ses opposants, c'est 2022 maintenant sur les retraites. Vous voulez encore la réforme d'Emmanuel Macron, vous votez pour lui, vous ne la voulez plus, ça, certains vont jouer ça.
Ce qui peut être encore plus long. On posait la question tout à l'heure d'Edouard Philippe qui jouait sa tête ou pas. On a cette question de Laurent qui nous dit, est-ce que la CFDT, est-ce que Laurent Berger, lui, joue peut-être sa place de premier syndicat ou pas? Lui, qu'est-ce qu'il a à perdre ou à gagner?
Oh, là, en dimension interne, pas grand-chose, parce que la CFDT fait absolument bloc sur la réforme des retraites. C'est elle qui, en 2003, l'a adoptée en premier. Ils ont même le sentiment que l'idée même de la réforme par points, c'est leur bébé. Et là, il n'y a pas en ce moment une discussion interne extrêmement intense. Le bureau national s'est passé comme une lettre à la poste, d'autant que c'était Laurent Berger lui-même qui avait pris les devants en disant « faut refuser le projet à l'instant où il est ». Donc je ne crois pas que Laurent Berger joue aujourd'hui du tout sa tête à la CFDT.
Donc, il ne joue pas sa tête, mais en revanche, c'est l'existence même des organisations syndicales réformistes, dont la CFDT, qui se joue quand même. Parce que tout ce qui fait, au fond, le sel ou la nature de ces organisations syndicales, c'est précisément de pouvoir négocier. Voilà, et de négocier et d'obtenir quelque chose. À partir du moment où vous je vais être un peu brutal, où vous avez l'impression de servir de paillasson, c'est pas moi qui le dis, au fond c'est Laurent Berger lui-même, à peu près dans ces termes, c'est compliqué, parce que c'est ça vous met directement en cause. Et le problème de la CGC, de la CFDT, de la CFTC, de l'UNSA, c'est ça actuellement. Donc un peu coincé, et évidemment, et là je crois qu'il y a quand même un enjeu pour ces organisations, j'espère pour le syndicalisme réformiste en France, c'est ce qui se passera, que les choses vont se dénouer à la fin de la semaine. Parce que sinon, c'est quand même très compliqué. Je rappellerai tous les précédents depuis 2 ans, quand même. Ça met à mal le syndicalisme réformiste.
Emmanuel Macron a un effort idéologique à faire. Parce que pendant toute sa campagne électorale, il nous avait dit les syndicats, c'est formidable. Dans l'entreprise. Mais au niveau national, ça sert qu'à perdre du temps.
C'est jupéiste aussi, comme raisonnement filloniste.
Il est arrivé petit à petit à cette idée que tous les corps intermédiaires, y compris au niveau national, c'était très bien, qu'il fallait les écouter. Il faut plus que les écouter. Il faut apprendre qu'une négociation, c'est y céder des choses, et que gérer une société, c'est pas comme faire une loi ou un décret. Il faut mettre la société avec soi dans le coup. Et les syndicats réformistes, ça représente quand même, quoi, une bonne moitié de la société salariée.
Ils sont majoritaires.
Et même une nette majorité. Et donc, on ne peut pas s'amuser à gouverner sur le plan social. Ça peut être jouable pour des sujets purement politiques, mais sur un plan social, vous ne faites pas une réforme comme ça sans mettre la société dans le coup.
Et le sens de la question de Laurent à l'instant, c'était aussi qui prend le plus de risques, au fond, de la CGT et de son leader ou de la CFDT?
Laurent Berger, craint échaudé.
Chat
échaudé. Pas craint échaudé. Chat échaudé craint l'eau froide. Laurent Berger aussi, c'est le troisième rendez-vous pour lui, qui ne doit pas être manqué, parce que les deux premiers ont été manqués. Celui au moment des gilets jaunes et de la taxe carbone, souvenez-vous, avec Nicolas Hulot, il parlait d'amortisseur social, qu'il fallait accompagner la transition, qu'il fallait donner aux plus faibles, aux plus fragiles, de quoi compenser les effets de la taxe carbone. Il n'a pas été écouté. Hein, on se souvient de la main tendue rejetée par Édouard Philippe à la télé le 18 novembre 2018 sur France 2. Après le deuxième épisode, l'assurance chômage, souvenez-vous, où la lettre de cadrage faite aux partenaires sociaux est trop raide et empêche finalement les syndicats d'arriver à négocier quelque chose. L'État reprend la main et là, à nouveau, la CFDT se sent inutile dans le film. Et puis, on arrive maintenant donc aux retraites où l'âge pivot, qui était censé être le critère sur lequel un accord pouvait être trouvé, ne l'est pas à l'heure actuelle. Donc, qui a le plus à perdre? Les conquêtes sociales récentes, avec une CFDT qui est premier syndicat de France, sont plus importantes depuis 1968 côté CFDT que côté CGT. La CGT dans une stratégie d'opposition quasi politique maintenant à tous les gouvernements, à toutes les réformes. C'est comme ça qu'il voit le mouvement social. Côté CFDT, dégressivité, fin de la dégressivité des allocations chômage, ça c'était la CFDT. Quel autre encore progrès récent? J'essaie de me souvenir sous l'ère Hollande. Mais sous l'ère Hollande, la CFDT était quasiment en co-gestion.
Ça nous amène à la question de Fabrice derrière qui dit, au fond, est-ce qu'on a sous-estimé la colère de Laurent Berger? Et moi, j'ai envie d'ajouter jusqu'à quel point elle est feinte, en fait, la colère de Laurent Berger.
Elle n'est pas feinte.
Alors, que lui soit très en colère, on est d'accord. Mais après tout ce qu'on a dit précédemment sur le fait que des négociations finiront par arriver, qu'on va reparler de cet âge pivot.
Non, mais vous pouvez pas dire tranquillement, dans au moins 3 émissions de télévision et de radio, la ligne rouge, ça serait l'âge pivot. Et entendre, se faire prévenir une demi-heure avant le discours d'Edouard Philippe, qui a l'âge pivot là-dedans, vous pouvez pas admettre ça. Vous avez le sentiment, en effet, que, comme il l'a dit, on lui marche dessus. D'autant que dans le même discours, le Premier ministre, parlant nommément de Laurent Berger, dit, il a des comptes à rendre à son organisation syndicale, moi j'ai des comptes à rendre au peuple français. Ce qui, la CFDT a tellement accouché idéologiquement sur les faits qu'ils étaient aussi un représentant de l'intérêt général que c'est se faire envoyer à une espèce de conception du syndicalisme qui n'est pas la leur. Donc il y a là quelque chose qui est pas de la colère feinte et qui n'est pas que de Laurent Berger. Moi, tous les gens de la CFDT que j'ai vus étaient, après le discours d'Edouard Philippe, vent debout.
Pourquoi, pour quelle raison la CFDT s'arc-boute-t-elle sur la retraite à points, nous demande cet auditeur dont je n'arrive pas à saisir le prénom. Le régime universel, la suite de la question, c'est un régime universel, oui, mais pourrait-il exister, aurait-il pu exister sur un autre critère? En gros, ce que je comprends de cette question, c'est faut-il absolument passer par un système de points pour plus de justice dans la retraite?
Non, parce que vous remarquerez que les réformes précédentes des retraites qui avaient été menées consistent à rapprocher, par exemple, les régimes entre eux. C'est bien ce qu'on a fait pour les RATP et la SNCF dans le passé. C'est ce qu'on peut faire dans les différents régimes. On peut très bien rapprocher, et on le fait dans bien des domaines, pas d'ailleurs simplement sur les retraites, on peut rapprocher la situation des gens de la fonction publique et du privé, etc. Tout ça peut se faire petit à petit. On n'est pas... Donc il y a d'autres moyens de le faire, et on peut rapprocher les âges de départ, les périodes de calcul, etc. Les choses... Donc quand on réforme, on peut faire... Vous voyez, donc effectivement, il y avait d'autres moyens de le faire, puis on les connaît d'ailleurs, plus progressifs, prenant plus de temps. D'autant plus que là, tout le monde le sait très bien, c'est de l'universel avec des spécificités. On reconstitue, comme on vient de le faire dans la police ou ailleurs, au fond, bien sûr, on tient compte des particularités. Donc in fine, on arrive quand même à un résultat un peu différent, mais bon, pas... On pouvait atteindre le résultat autrement.
Oui, il y a quand même de grosses catégories de population qui sont directement concernées, qui ne l'avaient pas été par les différentes mesures précédentes. Je pense aux femmes, je pense aux carrières hachées, je pense aux jeunes qui ont des petits jobs qui seront comptés dès la première heure, je pense aux agriculteurs, je pense aux indépendants. Il y a quand même énormément de gens, c'est des dizaines de millions de gens qui sont concernés. Et évidemment, ils ne veulent pas pour le moment croire aux promesses gouvernementales, parce qu'on ne croit plus aux promesses, mais sur le papier, c'est un instrument de justice sociale.
Peut-on encore parler de... Je reviens sur la question de Gérard, je passe à la question de Gérard parce que je pense à ce que vous disiez à l'instant. Peut-on encore parler de régime universel alors que, par exemple, les policiers ont obtenu peu ou prou le maintien de leur régime spécial et que peut-être, en effet, il peut y en avoir d'autres,
il y en aura d'autres,
à la suite. Donc, est-ce qu'on ne rajoute pas usine à gaz sur usine à gaz au fond? Est-ce qu'on risque de se retrouver avec certes un régime universel, mais...
C'est d'ailleurs une phrase fragilité, à mon sens, pour les mois qui viennent. On le vient déjà de le voir parce que on peut déployer un argu, des éléments de langage sur ce qu'on vient de faire pour la police, fonction régalienne et dangerosité du métier. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Est-ce qu'on va trouver toujours les arguments?
Est-ce que tous les employés de bureau de la police sont en état de dangerosité?
C'est ça. Donc, si vous voulez, à ce jeu, il va être difficile, compte tenu du nombre d'exceptions qui vont apparaître, évidemment, parce que c'est ce qui va se passer, ça va être compliqué. Parce que, vous voyez, à chaque fois, il faudra trouver des arguments pour autant de cas d'espèce, et ça va se compliquer. Voilà.
Et il risque d'y avoir donc beaucoup de cas d'espèce au final. Oui. Est-ce que l'un des arguments n'est pas d'essayer de monter un cas d'espèce contre l'autre cas d'espèce? Mais on a le sentiment jusqu'à présent que ça ne marche pas très fort, en fait, ou pas, selon vous, Roland Cayrol, l'idée de monter une catégorie contre une autre.
Je crois que ce n'est pas ni les uns ni les autres qui se font monter les revendications catégorielles, c'est qu'elles existent. Qu'est-ce que vous voulez, un enseignant, il voit bien qu'il est payé plus de deux fois moins qu'un enseignant allemand, quel que soit son niveau d'enseignant. Donc il a des revendications à lui, et on imagine mal que les aides-soignantes ou les pompiers soient extrêmement concernés par le salaire des enseignants. Donc il y a des intérêts catégoriels, et c'est un des problèmes de ce mouvement social, c'est qu'il n'en est pas un, c'est qu'il y a en même temps des gens qui râle, souvent légitimement, mais contre des choses très différentes. Il faut donc bien tenir compte de tout ça. Gouverner, c'est pas aussi, comme l'a dit l'autre, l'universel, c'est pas forcément l'uniformité. Il faut que le maximum des gens dépendants du régime général s'orientent le plus vite possible vers quelque chose qui sera universel. Pour le moment, on va déjà faire le plus universel possible avec des exceptions. Ça me paraît raisonnable, parce que sans quoi aller à coup de trique vers un régime tout de suite universel pour tout le monde, alors là, c'est des foyers d'embrasement formidables.
Et après la question universelle, voici la question convergence. Oui. Demain, on aura dans la rue tous les syndicats, le personnel hospitalier, les enseignants, les routiers qui commencent en effet aujourd'hui. Va-t-on arriver à cette fameuse convergence de tous les mouvements dont on parle depuis plusieurs mois? Est-ce que cela peut réellement déclencher quelque chose de plus important comme une grève générale avant les fêtes?
Ben, moi, ce qui me frappe, on en parlait à ce micro il y a 8 jours maintenant, et je posais la question, à quel moment est-ce que ce mouvement va dépasser le simple cadre de la réforme des retraites? Et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on reste vraiment sur le sujet retraite. On n'a pas débordé
sur... Les routiers, c'est quand même surtout les salaires.
Oui, mais on n'a pas débordé sur la défense des services publics. On reste quand même sur des mots d'ordre. Retraite à point, retraite universelle, pour, contre. Le gouvernement, l'enjeu pour lui, c'était de garder la maîtrise de ce récit-là et pas de se faire déborder sur d'autres thèmes annexes qui auraient fait qu'à la fin, le mouvement aurait échappé.
Et donc, en même temps, les enseignants vont beaucoup plus loin que simplement leur revalorisation et leur retraite. Les hospitaliers vont plus loin aussi.
Oui.
Enfin, chacun dans son couloir.
Chacun dans son monde. C'est Ils ça. Ont des revendications qu'on peut très bien comprendre. Le fonctionnement de l'hôpital, le fonctionnement des réformes Blanquer pour le secondaire, tout ça, ça crée des foyers de tension, mais qui ne peuvent pas être aisément partagé par d'autres.
Et là, ce qui se passe en ce moment, c'est l'écriture du projet de loi retraite. C'est bien de ça dont on parle. Envoyé au Conseil d'État avant Noël, normalement, pour être ensuite au Conseil des ministres le 22 janvier, puis débat au Parlement fin février. Donc c'est bien là-dessus que la discussion va se faire et la cristallisation aussi.
Mais par contre, ce qui est bien pour la convergence, c'était cette merveilleuse idée de l'âge pivot. 64 ans, ça par contre, pour créer de la convergence, c'est parfait.
C'est vrai.
Je ne suis pas d'accord avec vos intervenants, nous dit cet auditeur sur franceinter.fr. Alors attendez, bougez pas, je mets mes lunettes d'ailleurs parce que je ne vois pas ce qu'il a écrit. Macron est terriblement sûr de lui, voire autocrate, il ne lâchera pas. Quelle sera donc la suite de ce mouvement? Sans doute que personne n'en sait rien, alors c'est sûr que nous non plus on n'en sait rien, mais Macron ne lâchera pas, ne peut pas lâcher, c'est pas dans son ADN, on va dire.
Oui, mais le 8 décembre l'année dernière, au moment des Gilets jaunes, vous avez remarqué que le président a lâché. Donc, les
17 milliards.
Il a lâché de l'argent.
Il a lâché de l'argent, et il y avait quelques milliards.
Il a lâché de l'argent.
Donc, si vous voulez, les circonstances, comme on dit, finalement, la rue, les grèves, la gêne des transports, etc., le coût économique, tout ça fait qu'à un moment donné, même si vous êtes droit dans vos bottes, vous n'avez pas tellement le choix à un moment donné. Donc, même le président Macron changera de point de vue.
Yaël.
Ça dépend lâcher sur quoi, effectivement. Si c'est sur un aménagement de la réforme telle qu'elle a été conçue par Édouard Philippe, on en parlait tout à l'heure, c'est possible. Après, ce qui est d'ores et déjà l'enjeu pour lui, c'est est-ce qu'il tue dès maintenant l'acte 2 qu'il a théorisé ou pas ? Puisque l'acte 2, qui a démarré le 25 avril, conférence de presse à l'Elysée pour tirer les leçons du grand débat national, c'était justement écoute, proximité, humanité. C'était rethéorisé au G7 de Biarritz pour dire maintenant, voilà, acte 2 écologique aussi. Bref, il y avait tout ça dedans. Si, sur la réforme des retraites, il se met à dos les syndicats réformistes, c'est la fin de l'acte 2.
Ah, totalement.
Et retour à l'acte 1.
Mardi dernier, nous dit Émilie, les manifestants étaient beaucoup moins nombreux que le 5 décembre. À partir de combien de personnes pourra-t-on dire si c'est un échec ou un succès?
Pour la journée de demain?
Oui, oui.
La jauge, le gouvernement va regarder le 5 décembre, effectivement. Oui. Est-ce qu'on est sur les 800 000 ou en dessous, au-dessus? Ce qui regarde aussi beaucoup au gouvernement, c'est les taux de grévistes à la SNCF. Il y a un point tous les jours de la direction.
Un tout petit tassement, d'après ce que j'ai cru voir.
Exactement.
Alors, pas très significatif pour ceux qui sont dans les wagons, je pense.
61% des conducteurs ce matin, c'est un peu moins que vendredi. Donc là, effectivement, c'est le critère. Mais de toute façon, la jauge est mise déjà très haute, puisque le gouvernement dit il y aura du monde, il y aura forcément plus de monde demain, puisque la CFDT est dedans. Mais alors, si jamais c'est moins... Vous allez entendre les éléments de langage, bah dis donc, avec la CFDT, ça fait moins, c'est bizarre.
Et alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Ça veut dire quoi, grossir les rangs pour la CFDT? Parce que c'est pas aussi une manière pour la CFDT de se compter, en fait, dans ce mouvement, que de voir jusqu'à quel point, elle peut grossir le cortège du 5 décembre.
Ils sont embarrassés, la CFDT, cette journée, ils auraient voulu l'éviter. Ils viennent parce que là, ils viennent avec en étant à part dans le cortège, ils auront leur propre banderole et pas du tout mélangée au carré de tête, pour dire, on veut une retraite à point, nous, mais pas avec l'âge pivot. C'est complètement différent des autres qui disent, on veut le retrait de la réforme. Ça fait une sacrée différence dans la rue,
Voici une autre question qui nous vient de Gilles et qui dit, pour l'instant, les étudiants ne semblent pas très concernés par la réforme des retraites, alors que leur génération est directement concernée. Pourquoi, à votre avis? Jean-François.
Alors, quand on regarde les sondages, en fait, les jeunes sont plutôt hostiles, et donc soutiennent plutôt les manifestants. Donc, effectivement, quand on regarde les tranches d'âge des plus jeunes. Mais les universités... quand même, le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur surveille, comme le lait sur le feu, ce qui se passe quand même, parce que les quelques collèges ou lycées, pas des collèges, des lycées qui sont un peu bloqués, il n'y en a pas trop. Les universités, ça se complique, parce que beaucoup d'universités, dont la mienne d'ailleurs et d'autres, sont obligées d'annuler leurs examens dans cette période, de fermer une partie des établissements. C'est ce qu'à Paris, nous avons dû faire pour un de nos sites. Donc en fait, c'est quand même une situation qui n'est pas bonne. Alors, sans qu'il y ait de mobilisation importante des étudiants, c'est d'ailleurs très étonnant, mais rien ne se passe, sans doute la faiblesse des organisations syndicales étudiantes classiques. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la FAGE, très proche de la CFDT, justement maintenant, est dans la manifestation avec la CFDT, organisation syndicale réformiste, pour le coup, est importante chez les étudiants. Là aussi, on voit bien que vous voyez, même du côté des étudiants, on se retrouve avec toutes les organisations syndicales hostiles. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques jours.
Je ne sais pas si c'est une recette, cela dit, si la retraite, Roland Cayrol, est le meilleur argument pour faire sortir les étudiants des facs.
Non, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes immédiats qui concernent l'université, leurs problèmes, y compris leurs problèmes matériels, souvent extrêmement compliqués.
Qu'ils ont eu du mal à faire monter, d'ailleurs, récemment.
Et puis, il y a souvent ces déclarations surprenantes qui font aux enquêteurs, qui est de toute façon pas d'illusion, nous, des retraites, on n'en aura pas. Il y a une espèce de... côté, c'est terrible, mais nous, on ne va pas être concernés.
Dans l'histoire des mouvements sociaux étudiants et de jeunesse, c'est souvent quand il y a un projet de loi qui s'attaque directement à l'école, à l'université ou au lycée, que ça se met en route. Et là, on parle de quelque chose de beaucoup plus général, qui concerne de près, bien sûr, la génération 2004.
Rappelons quand même qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de lycéens et d'étudiants, surtout pas trop de lycéens, qui, avec des établissements fermés, rejoignent des manifestations. Rappelons-le, peuvent toujours mal tourner par les temps qui courent.
On a cette dernière question, peut-être dernière, c'est pas sûr, qui nous vient d'un prénom que je ne vois pas. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas beaucoup d'agriculteurs ou d'indépendants? Pourquoi est-ce qu'on ne les entend pas, plutôt, alors que cette réforme, a priori, leur est plutôt favorable? Parce qu'ils ne sont pas fédérés, peut-être.
Parce qu'ils sont contents. Quand on est content, on ne l'exprime pas, on est content, on a dit.
Mais on n'exprime pas non plus son contentement.
Christiane Lambert. La FNSEA était très, très. Il y a eu une rencontre à Matignon, je crois, il y a une dizaine de jours avec Christiane Lambert, et effectivement, elle était ravie d'avoir obtenu cette avancée sur la retraite minimale à 1 000 euros pour sa profession.
Et voilà où nous en sommes à l'heure où on se parle. Il y a donc une manifestation demain. D'autres rencontres prévues mercredi et jeudi à Matignon entre les syndicats et le Premier ministre. Et on verra à ce moment-là, peut-être en fin de semaine, ce qu'il en adviendra. Tiens, je voudrais quand même vous donner, si je la retrouve, c'est dommage, une toute dernière question. C'est dommage que je l'ai perdue parce qu'on avait un message au moment des fêtes de Noël. Vous voyez, je la retrouve plus. C'est vraiment dommage. Enfin, une femme qui nous expliquait en gros que si elle ne pouvait pas prendre sa voiture et que les enfants restaient coincés au moment des vacances de Noël dans la voiture, elle ne pouvait pas répondre de son mari. Donc le message est passé. Passez une bonne journée.